la fête ou c'est la première
Non, c'est la première
visite à l'occasion de la première conférence.
C'est la première visite à l'occasion de la première conférence.
D'accord. Nous allons commencer très bientôt l'exposé sur les champignons, leur incroyable diversité. Les personnes qui sont intéressées peuvent prendre place dans le granard, au fond du chapiteau, avec Fabienne Malania.
Absolument, oui.
Et puis il y a d'autres bouquins qui ne sont pas forcément là, qui sont un peu plus chers, mais qui sont assez exhaustifs sur tous les aspects de la vie du champignon. Alors sur tous ces aspects, je ne vais pas vous faire une tête de chapitre, c'est elle qui va vous présenter. À vous la parole.
Merci. Eh bien écoutez, on va passer d'un monde de champs à un monde silencieux. Alors les champignons, pour vous, c'est quelque chose à la fois extraordinairement familier, parce que je pense que tout le monde a croisé la route d'un champignon un jour. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est largement méconnu par ailleurs. Donc je vais essayer de vous faire un petit panorama. D'abord, on va essayer de définir ensemble ce que c'est qu'un champignon, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui traînent et de choses qui sont inexactes. Et puis ensuite, on va voir en quoi les champignons, enfin quel est le rôle des champignons à la fois dans l'environnement, dans votre alimentation, dans la pharmacopée et tous les aspects de la vie humaine qui sont directement en lien avec des champignons. Donc pour vous, en général, les champignons, ça ressemble à ça. C'est quelque chose qu'on trouve dans les sous-bois, dans les prairies, plus souvent à l'automne que le reste de l'année, avec en gros un pied, un chapeau, et qui éventuellement on peut manger. Et vous allez voir, enfin en tout cas j'espère que vous serez convaincus à la fin de cet exposé, que en fait c'est un ensemble d'êtres vivants qui est bien plus large que ça, et qui représente une extrêmement grande diversité. Alors par exemple, peut-être que vous avez croisé aussi ce type d'êtres vivants, donc ici des moisissures sur des poires, des moisissures sur une boîte de pétri, donc ça plutôt un objet de laboratoire, mais aussi ces petits lichens sur des rochers, voire ces objets qui font des jolies photos et qui sont également des champignons, ou ici donc des spores, donc les structures de reproduction de ce type de champignons. Tout ça fait partie d'un règne à part. Les champignons sont des organismes à part entière. Alors, ça avait pourtant commencé sur un énorme malentendu, et c'est par ça qu'on va commencer, et on va tenter de savoir qu'est-ce qu'un champignon. Donc on va voir que c'est un ensemble d'organismes qui définissent un règne entier, un règne à part entière. On va voir aussi ce que c'est qu'un règne dans le monde du vivant par la même occasion. Vous allez voir qu'ils ont des stratégies originales de nutrition, mais aussi de reproduction et de dissémination. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera d'interaction des champignons avec leur environnement au sens large. Donc on va voir que ce sont des champions du recyclage de la matière organique, donc la matière fabriquée de carbone vivante ou morte. Et on va voir qu'ils peuvent établir des liens avec d'autres êtres vivants, donc liens à bénéfice mutuel, symbiose, ou liens au détriment de l'autre, de type parasitique. Et enfin, on verra quelles utilisations rituelles, médicales, mais agronomiques aussi, voire scientifiques, on peut faire de ces organismes. Alors, si vous ouvrez un dictionnaire au mot champignon, par exemple celui de l'Académie française, vous allez arriver à une définition qui pour moi reste, alors que les champignons sont en gros mon outil de travail journalier, assez obscure. Donc c'est un terme générique qui désigne un cryptogame dépourvu de feuilles, de chlorophylle, de racines, et dont la forme et la couleur, consistance également, sont très variées. Si je vous lisais cette définition, est-ce que vous dessineriez un champignon ? Eh bien, probablement que non. Et donc on va voir ensemble comment cette définition a évolué, comment on peut établir une nouvelle définition qui soit à la fois valide d'un point de vue vie quotidienne et valide d'un point de vue scientifique. Alors, l'histoire, ce malentendu commence très tôt. En fait, dans l'histoire, alors on va faire un petit peu d'histoire scientifique ensemble, hein, ça va être rapide, mais je pense que c'est vraiment important de fixer quelques idées. Et vous allez voir que très tôt dans l'histoire humaine, des curieux de nature, peut-être des premiers scientifiques, ont essayé de classer les êtres vivants les uns vis-à-vis avec les autres ou contre les autres. Et donc, le premier type de classification qui vient, c'est de regarder des êtres vivants et de se dire que s'ils se ressemblent, on fait un groupe ensemble, etc. Et donc, la première dichotomie qui a été instituée, c'est de classer les êtres vivants en deux groupes. Ceux qui bougent, des animaux donc, ceux qui sont doués d'une âme qui bouge, et ceux qui sont immobiles. Et dans les immobiles, il y avait deux classes, les plantes et les champignons. Et donc, pendant très longtemps au cours de l'histoire, hein, on a commencé à en douter au milieu du XXe siècle, on a prouvé que cette classification est inexacte au milieu du XXe siècle. Pendant tout ce temps-là, les champignons ont été vus comme des végétaux non chlorophylliens. Donc des végétaux dépourvus du pigment vert qui permet de faire la photosynthèse. Alors, quand est-ce qu'on a commencé à douter de cette classification? Eh bien, en science, il y a deux types d'évolution. Il y a l'évolution des concepts, et donc les concepts ici sont représentés en bleu, et il y a l'évolution des technologies. Et donc ici, sur mon code couleur, c'est représenté en rouge. Et en fait, un Hollandais, au début du XVIIe siècle, a commencé à construire les premiers microscopes, et c'est comme ça qu'on a pu voir les premiers objets dits microscopiques, c'est-à-dire il fallait une lentille pour regarder, et la première chose qu'il a regardée en néerlandais, c'était ce qui restait au fond de son verre de bière, et vous allez voir que ce qui reste au fond d'un verre de bière, ce sont des champignons microscopiques qu'on appelle des levures. Cécile a une petite présentation sur la fermentation qui va tourner pour les trois jours suivants. Au siècle d'après, on a commencé donc à penser aux champignons aussi en termes microscopiques, ils se voyaient très peu, et puis on s'est demandé comment ils vivaient. Et donc on les a amenés de la nature au laboratoire, et c'est un Italien qui a fait qui a décrit les premiers cycles de vie des champignons et qui s'est intéressé à cette catégorie d'êtres vivants par opposition aux végétaux. Dans le même temps, Carl von Linné, donc un Suédois, avait établi une classification systématique du vivant dont nous avons hérité. C'est la fameuse nomenclature binomiale, hein, avec un nom de genre et un nom d'espèce. Et il avait groupé de nouveau les champignons avec les végétaux. Au milieu du 19e siècle, deux événements scientifiques majeurs. Louis Pasteur énonce la théorie de l'évolution, la théorie cellulaire. Donc il n'y a pas de génération spontanée. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules et toute cellule naît d'une cellule. Et en fait, une grande partie des expériences qui l'ont conduit à tirer ces conclusions ont été faites sur des levures, donc ces champignons microscopiques qu'à l'époque on pouvait arriver à conserver, à faire croître au laboratoire. Alors pour la petite histoire, hein, il y a eu des tas de questions qui se sont posées. Par exemple, juste avant la Révolution, il y avait une question scientifique qui était comment marche la fermentation. Et il y avait un comité qui avait dit, voilà, il y a, je ne sais plus, mais c'était un kilo d'or fin qui sera donné en prix au premier scientifique qui est capable d'expliquer ça. Donc ça, c'est Louis Pasteur qui a réussi. Oui. Ah pardon. Vous pouvez poser des questions et donc on peut s'interrompre pour répondre aux questions au cours de cet exposé. Voilà, un peu plus tard, Charles Darwin, alors d'un point de vue beaucoup plus large, hein, concernant tous les êtres vivants, énonce la théorie de l'évolution et la sélection naturelle, et donc contredit l'idée du fixisme, c'est-à-dire que les êtres vivants n'ont pas une forme unique et inchangée, et qu'il y a donc une évolution morphologique. Juste avant le début du XXe siècle, il y a un botaniste allemand qui commence à mettre en évidence la relation entre des plantes et des champignons et qui décrit les premières symbioses. Et on verra ce que c'est qu'une symbiose en détail par la suite. Et puis, à la même époque, on commence à réaliser qu'un certain nombre de dégâts qui sont faits chez les végétaux ont pour origine des micro-organismes et que les champignons n'y sont pas pour rien. Et l'ensemble de ces découvertes, hein, de ce siècle extrêmement foisonnant, permet permet de poser des questions sur la place des champignons dans l'arbre vivant, avec des premiers questionnements réellement scientifiques. Alors, ce problème se résout au cours du XXe siècle, d'abord parce qu'il y a des innovations technologiques qui permettent de nouvelles échelles d'analyse, on va en parler dans un instant, notamment une capacité de microscopie qui va permettre de décrire des structures différentes entre les organismes, et vous allez voir que les champignons ont des structures qui les différencient des végétaux, et puis des phylogénies moléculaires, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir reconstituer l'histoire évolutive, hein, puisque on ne croit plus au fixisme, donc l'histoire évolutive des espèces les unes par rapport aux autres, et ça va donner une nouvelle phylogénie, une nouvelle histoire des êtres vivants, et les champignons vont trouver toute leur place, et on conclura de ça que les champignons ne sont pas des végétaux. Alors, on va voir maintenant ensemble quels sont les éléments concrets qui montrent ça. Alors, vous pouvez être un peu surpris, hein, mais sachez que la science qui s'occupe des champignons, donc qu'on appelle la mycologie, est encore largement enseignée dans des départements de botanique, y compris à l'université, que si vous allez au muséum, vous trouverez des labos qui s'intéressent aux champignons dans la cryptogamie, c'est-à-dire dans les végétaux dont on ne voit pas les organes de reproduction, etc. etc. Donc, on a encore largement culturellement hérité de ce genre de concepts, qui sont donc faux. Alors, sur les stratégies nutritionnelles, vous allez voir que les champignons se comportent différemment des végétaux et les animaux. Donc les animaux, vous êtes tous persuadés que ça a une stratégie de prédation. C'est-à-dire que, en fait, si on considère une cellule animale, elle va se nourrir en ingérant, c'est-à-dire en faisant rentrer à l'intérieur d'elle, de la nourriture prise dans l'environnement, puis la digérer. Donc c'est ce qu'on appelle de manière scientifique une phagotrophie, donc phagocyté de la nourriture. Les végétaux ont une stratégie nutritionnelle différente. Les végétaux n'ont pas besoin d'aller puiser des ressources organiques dans l'environnement et de les ingérer, puisque les végétaux sont capables de fabriquer ces ressources carbonées. Et les végétaux sont capables de faire ça parce qu'un jour, dans une cellule initiale, est rentrée une usine à fabriquer de l'énergie, qu'on appelle ici un chloroplaste. Donc c'est plein de chlorophylle, un pigment qui permet de fixer la lumière et qui, par toute une suite de réactions relativement complexes, va donner les ressources nutritionnelles à la plante. Donc elle ne dépend pas de son environnement pour manger, à condition qu'il y ait de la lumière, et on l'appelle autotrophe, c'est de l'autotrophie. Donc ça ne repose pas sur la prédation d'autres ressources carbonées. Alors, les champignons, ils n'ont pas de chlorophylle, donc ils ne peuvent pas être autotrophes. Ils ne bougent pas, donc ils ne peuvent pas aller phagocyter des proies. Donc, qu'est-ce que font les champignons? Eh bien, ils vont faire une sorte de digestion extracorporelle, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer dans l'environnement des molécules actives, qu'on appelle des enzymes. Ces enzymes vont digérer l'environnement, et le champignon va pouvoir récupérer les nutriments qui sont ainsi digérés dans l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un troisième type de stratégie qu'on appelle osmotrophie. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles les champignons, évidemment, ne sont pas des végétaux. Alors, ensuite, on est rentré dans une caractéristique beaucoup plus moléculaire, parce que il y a eu un moment au cours de l'avancement de la technologie où on a eu accès au patrimoine génétique d'un grand nombre d'êtres vivants. Donc ça veut dire que ce patrimoine génétique, on peut le décrypter et ça donne une chaîne de code. Et on va comparer cette chaîne de code de proche en proche, et plus la chaîne de code est similaire et plus les individus ont un ancêtre commun proche, c'est-à-dire que plus ils sont apparentés. Et donc, de comme ça en cousin germain, puis cousin second, puis etc., on reconstitue une histoire évolutive. Donc vous, ce que vous avez classiquement appris, c'est effectivement les animaux et les végétaux d'un côté. Eh bien, c'est partiellement vrai, mais vous allez voir que la situation est beaucoup plus compliquée. En fait, le monde vivant tel qu'on le connaît actuellement va se découper en 5 règnes. Il y a un règne qui va être le monde bactérien, qu'on appelle aussi procaryote, parce que ces organismes sont en général constitués d'une seule cellule, et que le patrimoine génétique de leur cellule n'est pas dans un compartiment particulier, qu'on appelle chez les eucaryotes, c'est-à-dire ceux qui ont un noyau dans lequel on trouve le patrimoine génétique. Donc ça, c'est une première dichotomie qui va permettre de classer les êtres vivants. Donc les procaryotes, globalement contenant des bactéries, et les eucaryotes. Et dans les eucaryotes, on ne fait pas la différence de manière aussi claire qu'avant entre les animaux et les végétaux, d'abord parce que les champignons s'intercalent, et qu'on sait maintenant que ce qui fait la différence entre cette lignée évolutive-là et cette lignée évolutive-là, c'est la structure de la cellule ancestrale. Dans le cas des végétaux, la structure ancestrale était équipée de deux flagelles qui tractent. Donc cette cellule avance dans ce sens-là. Et ça, ça a donné la lignée des arbres, des plantes, des algues, de tout ce qui, en gros, fait de la photosynthèse. Sur cette lignée-là, on a une cellule qui a un seul flagelle, qui bat et qui va propulser la cellule dans ce sens-là. Et de cette cellule initiale ont émergé deux lignées différentes, celle des animaux, que vous connaissez bien, mais aussi celle des champignons. Donc ce que nous apprend la phylogénie moléculaire, c'est que non seulement les champignons ne sont pas des végétaux, on avait vu avant qu'on avait déjà des indices, mais que les champignons sont des plus proches cousins des animaux que des végétaux. Et que l'histoire évolutive est donc très très éloignée. Alors, il y a eu aussi des caractéristiques biochimiques qui sont venues apporter du lot au moulin. Et dans les choses qui avaient aidé à rapprocher les plantes et les champignons, c'est que dans les deux cas, ces cellules possèdent ce qu'on appelle une paroi rigide ou encore un exosquelette. Or, on a compris après, avec des techniques de biochimie, que les plantes, la paroi des plantes avait une composition très différente de la paroi des champignons, qui en fait a dans cette paroi de la chitine, qui est un des composants des carapaces d'insectes et de crustacés. Et d'autre part, que pour stocker les réserves énergétiques, là encore, les polymères qui étaient utilisés ne sont pas de même nature, des sucres pour les plantes et des polymères de graisse pour les animaux et les champignons, encore une fois, qui partagent des caractéristiques communes. Alors, si on se demande maintenant qu'est-ce qu'un champignon, on peut répondre en partie à cette question. On sait que c'est un organisme eucaryote, donc il y a un compartiment spécifique pour y mettre l'ADN. Il est issu de cette cellule qui était propulsée par un seul flagelle, comme les animaux. Ce sont des organismes osmotrophes, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer de la matière organique dans leur environnement par osmotrophie. Et on sait maintenant que ça représente une extraordinaire diversité sur Terre. Il y a environ 100 000 espèces qui sont actuellement décrites. On peut estimer, alors les plus optimistes vont jusqu'à 10 millions, donc ça c'est des expériences environnementales où on regarde dans un milieu donné le nombre d'espèces connues et le nombre d'espèces inconnues, et donc on fait une péréquation à peu près. Donc pour vous donner une idée, je crois qu'on connaît environ 1,5 million d'espèces d'insectes qui sont les animaux les plus nombreux décrits sur Terre. Donc vous voyez que chez les champignons, il y a un réservoir qui est potentiellement encore plus grand. Alors, les champignons, vous voyez encore une fois le chapeau et le pied. Eh bien, c'est le sommet immergé de l'iceberg. Ça ne correspond pas du tout à l'ensemble de la complexité de l'organisme champignon. Et donc là encore, il y a essentiellement deux systèmes, grossièrement deux systèmes d'organisation morphologique. Il y a les levures dont on a déjà beaucoup parlé, donc ici Saccharomyces cerevisiae, qui font ce sont des champignons unicellulaires qui se développent en bourgeonnant. Vous voyez, là il y a la cellule mère qui donne un bourgeon qui va être séparé, qui est une cellule fille qui redonnera un bourgeon, etc. Et ça fait ces petites colonies sur boîte. Hein, si vous gratouillez un fond de bière franc-comtoise de là-bas, vous mettez ça sur une boîte de pétri, vous allez obtenir ce genre de colonie. Et puis, la deuxième forme d'organisation de ce type d'être vivant, c'est une forme qu'on appelle communément moisissure et qui est en fait une compilation de tubes. Alors, ces tubes, on les appelle des hyphes, et cette forme, on peut l'appeler donc mycélienne. Mais en gros, ça veut dire qu'ici, on a mis une petite portion d'un individu à croître sur un milieu ad hoc, et que la croissance s'est faite de manière centrifuge, c'est-à-dire du centre vers la périphérie, en occupant toute la surface, et donc toutes les ressources nutritionnelles de dessous peuvent être récupérées et consommées. voyez cette structure en if, on va en avoir une description un petit peu plus loin précise, mais c'est vraiment ça, on va dire, ce que l'évolution a sélectionné chez les champignons, c'est cette invention qui permet de couvrir une très grande surface et donc de mobiliser beaucoup de ressources naturelles. Alors, si on passe un petit peu de temps sur cette structure hyphale, c'est que c'est vraiment un truc très particulier des champignons qu'on ne retrouve pas tellement dans le reste du monde vivant. Et ce qui est un petit peu déroutante, même pour les biologistes, parce qu'en général, les biologistes pensent unité. Donc, c'est ce que Pasteur avait montré, toute cellule n'est d'une cellule. Or, chez les champignons, vous allez voir que la notion de cellule est très floue. Elle est remplacée par une notion de tube, qu'on appelle aussi un syncytium. C'est-à-dire que là, si on était chez une cellule végétale, par exemple, on aurait une paroi fermée, on aurait une cellule et une cellule. Or, ici, ce n'est pas le cas. Vous avez un tube dans lequel il est possible de faire se déplacer plein d'organites cellulaires de différentes fonctions. Donc c'est ce qu'on appelle un syncytium. Ce qui veut dire que ce qui est produit ici peut être acheminé ici et réciproquement. Donc, cette structure a beaucoup d'intérêt parce que ça veut dire que si vous êtes ici au front de croissance et que c'est là que se trouve la nourriture, et bien vous pouvez l'acheminer très très vite au centre de la colonie où la nourriture est épuisée. Donc, un système optimal pour couvrir les milieux et faire transiter les ressources qu'on peut aller chercher à la périphérie, là où c'est plus riche, et acheminer partout dans la colonie. Alors, l'autre chose très rigolote avec les champignons, c'est qu'un même individu, avec le même patrimoine génétique, peut avoir des apparences extrêmement différentes en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Et ça, chez les animaux, c'est quelque chose d'assez inédit. On peut claquer des dents quand on a froid, on peut être un peu rouge quand on a un coup de soleil, mais on ne va jamais obtenir des formes aussi différentes en fonction des milieux de culture. Donc, une très grande plasticité. Et quelque chose d'aussi assez fascinant, c'est la notion de totipotence. Si on prend une cellule de souris et qu'on la remet dans un milieu nutritif pour cellules de souris, on ne va jamais régénérer une souris. Hein ? Il y a quelques expériences de clonage, mais ça reste extrêmement difficile et très compliqué. Chez les champignons, n'importe quel morceau de la colonie va régénérer une colonie complète et totipotente, c'est-à-dire avec la possibilité de différencier notamment des structures de reproduction telles qu'on va le voir plus tard. Hein, donc on garde cette possibilité à ce qu'on appelle la différenciation. D'une fraction, on refait un tout complètement fonctionnel. Alors, on va maintenant parler des stratégies de reproduction qui sont quand même essentiellement liées aux formes de l'organisme. Donc, pour les stratégies de reproduction, il y a deux possibilités chez les champignons. Il y a une possibilité qu'on appelle reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il faut trouver un partenaire qui est génétiquement différent de soi, suivre le processus de la reproduction sexuée et générer des descendants qui seront génétiquement différents des deux parents. Mais il est également possible chez les champignons, enfin c'est un certain nombre d'espèces en tout cas, de se reproduire par clonage, c'est-à-dire d'aller émettre des propagules qui sont rigoureusement identiques à l'organisme de départ et d'aller envahir l'environnement avec ça. Donc ça, vous avez tous vu sur des fromages de type bleu par exemple, les petites cavités pleines de bleu, et bien en fait ce qu'il y a dans les cavités pleines de bleu, c'est ça. C'est les structures de reproduction asexuées du champignon qui est prêt à disséminer dans l'atmosphère. Ces petites spores là sont prises en charge par le vent, par la pluie, par les insectes, trimballées ailleurs, refont un individu complet et c'est reparti. Alors, pour les stratégies de reproduction sexuée, je vous ai dit, c'est plus compliqué parce qu'il faut deux partenaires génétiquement différents qui se rencontrent, qui fabriquent une fructification. Donc ça, si vous êtes familier avec ce genre de fructification, c'est justement ce qu'on mange et ce qu'on appelle, par abus de langage, un champignon. Et donc c'est à l'intérieur de cette fructification qu'a lieu la reproduction sexuée, qu'on va générer des petites spores qui seront génétiquement différentes, qui vont générer des nouveaux individus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une partie des champignons, c'est celle qu'on appelle basidiomycètes, parce que les structures de dissémination s'appellent des basides. Donc typiquement, c'est les cèpes, plein de champignons, donc les champignons de Paris, etc., tous les agarics, tout ce qui a un pied et un chapeau. Il existe aussi d'autres formes de fructification, qui sont ici en coupe, ou par exemple pour des morilles, où là, les produits de la reproduction sexuée, c'est-à-dire les nouveaux individus en devenir, sont groupés dans des petites sacs qu'on appelle des asques, d'où le nom de la famille Ascomycètes. Donc on a vraiment deux types de grandes familles chez les champignons en fonction de leur mode de reproduction. Alors, on a vu la stratégie alimentaire en gros, on va maintenant parler du régime alimentaire. Et vous allez voir qu'en fonction du régime alimentaire, les liens avec l'environnement vont être extrêmement différents. Donc, on va passer en revue avec des exemples trois types de stratégies de recherche de la nourriture, qui sont les trois grandes connues. Donc, il y a un mot très savant qui dit « ça profite », mais ça veut juste dire que ces champignons ne se nourrissent que de matière organique morte, c'est-à-dire en gros, sont des éboueurs. Et vous allez voir l'importance que ça a, notamment pour les forêts et les sols forestiers. Et puis d'autre part, il y a des individus qui sont symbiotiques et qui vont construire leur stratégie d'échange de nourriture avec d'autres êtres vivants qui peuvent être des plantes ou des animaux. Et on verra des exemples. Et puis le dernier cas, c'est le parasitisme. Et donc là, les champignons en question se nourrissent de matière organique vivante, donc au détriment de l'autre, qu'il soit un animal ou un végétal. Alors, on va commencer par les saprophytes. Donc, quelque chose qu'on dit répétitivement, mais qui est très vrai, c'est que s'il n'y avait pas de champignons dans l'environnement, on vivrait sur des piles de débris végétaux, de troncs, de branches, de feuilles, qui ne pourraient se détruire qu'avec la pluie, le vent, le gel, mais pas avec l'action des êtres vivants, parce que les êtres vivants qui font ça, ce sont justement les champignons. La paroi des végétaux est extrêmement indigeste. C'est cette énorme molécule que vous voyez là, qui s'appelle de la lignine, c'est ce qui permet aux végétaux d'être dressés. Donc ça fait ces squelettes très durs, avec des faisceaux d'autres composés ici assez durs, qu'on appelle cellulose, et c'est les champignons qui possèdent les enzymes nécessaires pour aller dégrader ces parois. Donc ils font ça dans le sol, et je suis sûre qu'en vous baladant en forêt, vous avez déjà croisé ce type de structure, c'est-à-dire un tronc d'arbre au sol avec des motifs géométriques ici, qu'on appelle de la pourriture cubique ou pourriture brune. Donc dans ce cas-là, c'est la lignine qui est grignotée par les champignons. Et puis ici, une pourriture blanche, où c'est la cellulose qui est en train d'être dégradée, avant de passer donc de composés complexes en composés simples, ce qui est le classique de la chaîne alimentaire. Donc, encore une fois, les champignons sont les seuls êtres vivants sur Terre à faire ça de manière aussi efficace et à une échelle importante. Donc, sans champignons, pas d'humus, de sol forestier et donc pas de pratique agricole. Alors, le saprophytisme, ça a aussi quelques effets secondaires. Et par exemple, dans les champignons qui sont capables de dégrader de la matière végétale et donc le bois des maisons, toutes les boiseries, éventuellement une partie des canalisations, il y a un champignon qui s'appelle la mérule, Serpula lacrumens, et ça boulotte des maisons entièrement. Il y a certains coins en France où il faut fournir un certificat en disant que la maison est indemne de plomb, de termites et de mérule pour pouvoir la vendre. Alors, on peut détourner un certain nombre de ces enzymes à usage, par exemple, industriel. Et plutôt maintenant que de blanchir la pâte à papier avec des composés chlorés qui sont extrêmement polluants pour l'environnement, on peut utiliser des enzymes de champignons qui savent faire ça et qui sont moins polluants. Et puis, vous avez sans doute suivi une actualité récurrente autour du bioéthanol, que j'ai mis ici entre guillemets, parce que bon, c'est le terme consacré. J'ai quelques réserves sur le mot bio ici en l'occurrence. Mais il se trouve que les champignons ont donc la capacité de dégrader la matière végétale, encore une fois, et donc notamment par exemple les tiges des graminées qui ne seraient pas utilisées pour l'alimentation humaine ou animale et qui pourraient donc ensuite être transformées grâce aux enzymes de champignons en molécules qui sont utilisables pour les moteurs à explosion. Donc là, il y a beaucoup de secteurs de recherche sur le sujet. Alors, on va maintenant parler des symbiontes, et on va parler des symbiontes, si vous avez pas de questions, parce qu'on peut aussi poser des questions si vous êtes perdu entre les chapitres. On va parler des symbiontes sous différents aspects. Le premier aspect, c'est quelque chose qui est alors là vraiment largement méconnu, ce sont des champignons endophytes, c'est-à-dire qui vivent à l'intérieur des plantes. Et ça, c'est même un champ scientifique, on va dire, nouveau et assez innovant, et on connaît très mal cet aspect des choses. Il y a aussi des champignons mycorhiziens, c'est-à-dire c'est des champignons qui vivent en association avec les racines de plantes, Et on va voir des exemples de ça. Et puis il y a les fameux lichens, l'association d'un ou plusieurs champignons avec une ou plusieurs algues. Alors, pour les symbiontes, j'aime bien cette petite histoire. Donc, c'est une histoire qui se passe en Nouvelle-Zélande, et en Nouvelle-Zélande, ils élèvent des moutons. Et c'est une production d'intérêt national. Et de temps en temps, ces moutons qui mangent donc du chien d'an qu'on voit ici sont malades, avec des symptômes étranges, les brebis avortent, les moutons perdent du poids, le troupeau va pas bien. Et une des choses que les agriculteurs se sont demandé, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces herbes éventuellement pour rendre les moutons malades. Et donc ils sont allés chercher qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur comme composé organique ou autre. Et en fait, ils ont pu voir que ici vous voyez les filaments, donc les fameux ifs du champignon colorés en vert, qui poussent à l'intérieur de la plante dont on voit la paroi en rouge. Donc c'est ça des symbiontes, c'est les champignons qui vivent à l'intérieur, à l'extérieur, on voit absolument aucun signe du champignon. Et de temps en temps, le champignon adopte une forme qu'on appelle mutante, c'est-à-dire un nouveau patrimoine génétique. Et là, en l'occurrence, quand il est sous forme mutante, vous voyez que ça a quelques conséquences sur la croissance du chien-dent. Et le chien-dent, avec la forme mutante, vous voyez, ça conduit à la prolifération un peu anarchique du champignon à l'intérieur de la plante et à une réduction de la croissance de la plante. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que les champignons peuvent aussi jouer un rôle de protection contre les herbivores, hein, qui vont aller grignoter ces plantes, en fabriquant des molécules toxiques de type alcaloïde, terpénoïde, etc., voire composés organiques volatiles qui passent de plante en plante pour dire qu'il y a des prédateurs et qui sont en train de manger, par exemple, les feuilles d'acacia en Afrique australe. Oui, c'est le champignon qui produit. Au point d'ailleurs qu'il y a un exemple célèbre, pharmaceutique, c'est un composé anticancéreux qui, à l'origine, avait été produit à partir d'écorce d'if, je crois, et puis éventuellement de petites... Bon, je crois que c'est l'écorce de l'if. Et en fait, c'est pas du tout l'if qui produit ce composé, c'est un champignon qui vit à l'intérieur de l'if, un endophyte. Donc il commence à y avoir pas mal de littérature sur le sujet. Il y a un étudiant en thèse québécois qui regarde à l'intérieur d'un seul individu de pin blanc, qui est une espèce emblématique du Québec, et qui trouve plus d'une centaine de champignons différents, donc d'espèces différentes qui vivent à l'intérieur de cet individu unique. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Alors... À part ceux qui vivent à l'intérieur des plantes, il y a ceux qui vivent à l'interface des plantes, et notamment avec le système racinaire. Donc ici, vous avez une coupe de racines de plantes, et vous avez essentiellement deux stratégies pour des champignons pour aller être au contact de cette racine de plante. Donc vous avez les champignons qui restent à l'extérieur de la racine de plante et qui vont faire un manchon, comme des moufles en fait. Et il y a ceux qui sont appelés endomycorhizes, donc ceux-là sont appelés ectomycorhizes, hein, qui restent à l'extérieur. Ceux-là, endo, ils rentrent à l'intérieur des cellules de la racine de plante, carrément. Et donc ça, suivant ces deux stratégies, c'est pratiquement l'ensemble des espèces végétales sur Terre qui vit en association symbiotique avec une ou plusieurs espèces de champignons. Et de la même manière, le champignon peut être en contact avec des racines d'une espèce ou de plusieurs espèces ou de plusieurs individus de la même espèce d'arbres, de graminées, d'espèces végétales diverses. Alors, à quoi ça sert cette association racinaire? Et en quoi c'est une symbiose? Ici, vous avez une manip faite sur de la vigne. Ici, vous avez donc toutes choses égales, hein, même quantité de nourriture, même quantité d'eau, même quantité de lumière, même temps de croissance. Et vous voyez que l'allure des plants est, lui, un peu différent. Eh bien, en fait, la différence, c'est ces plants-là bénéficient d'une association symbiotique qui a été favorisée, c'est-à-dire qu'on a mis en contact les champignons avec les racines avant de les mettre dans les pots. Et là, ce n'est pas le cas. Et entre deux, vous avez une graduation qui montre que, effectivement, c'est une association à bénéfice mutuel parce que la plante croît mieux quand elle est au contact du champignon. Donc, le champignon fournit à la plante des sels minéraux qui sont indispensables à la croissance, mais va aussi permettre un plus grand accès à l'eau et une protection, parce que tout ce qui grignote ou qui attaque la racine va d'abord tomber sur le manchon de champignon. Et donc, ça fait une barrière mécanique. En retour, la plante fournit au champignon ce qu'elle fabrique par la photosynthèse, donc essentiellement des sucres, de la matière carbonée. Et c'est un système à clapet où personne ne doit tricher, c'est-à-dire que si le champignon champignon fait plus sa fonction, il n'y a plus de sucre. Mais de la même manière, le sucre ne peut pas repartir dans la plante. Le champignon a un système pour le conserver. Donc, c'est une symbiose avec un petit quelque chose de permé. Et donc, probablement que c'est l'existence de cette symbiose, dont des champignons symbiotiques de ce type-là donnent les cèpes, les truffes du Périgord, la morille dont on parlait, enfin, toutes les espèces d'intérêt gustatif. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on ne peut pas les cultiver. Parce qu'évidemment, la survie du champignon sans sa plante hôte est un problème. Et donc, si pour produire des cèpes, il faut avoir une plantation de chêne, en laboratoire, en serre, etc., ça devient très compliqué et on ne sait pas faire ça. Alors, ce qu'on a réalisé aussi avec des techniques qui deviennent de plus en plus importantes, c'est que finalement, le réseau mycélien des champignons faisait un réseau de communication et d'échanges nutritifs à longue distance dans les sols des forêts. Et ça, ça a plein de rôles biologiques et notamment peut-être au moment en fait où de ce qu'on appelle débourrage, où les bourgeons vont donner des feuilles et où la sève se remet à circuler dans les feuillus. Peut-être que le coup de pouce, c'est un échange entre des conifères et des feuillus via le pipeline mycélien. Alors, deux petits trucs rigolos quand même sur les truffes. Si vous avez un terrain calcaire, une ancienne vigne ou une chose comme ça et que vous voulez investir pour l'avenir, vous pouvez acheter auprès de l'INRA, donc qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique, des plants de chêne truffiers qui sont mycorhizés, c'est-à-dire mis en association avec la truffe noire du Périgord. Vous attendez de 7 à 15 ans et vous pouvez tenter de dresser un chien truffier pour aller chercher votre production. De la même manière, les sapins de Douglas qu'on achète à Noël, qui sont souvent cultivés dans le Morvan ou ailleurs, croissent une fois et demie plus vite grâce à leur association symbiotique vendue en pépinière d'un champignon qui s'appelle l'Acaria bicolore que naturellement dans les mêmes conditions. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les lichens ? Alors, les lichens, c'est donc la dernière association symbiotique qu'on va voir ensemble, et c'est une construction complètement différente. Vous avez vu que les endophytes, ça pousse à l'intérieur des plantes, les mycorhiziens, ça pousse en association avec les racines de plantes. Eh bien, les lichens existent quand il n'y a pas de possibilité de développement de plantes vertes, au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de litière, ou alors des conditions extrêmes d'exposition à la lumière ultraviolette, à la dessiccation. Donc par exemple, les coulées de lave, tous les environnements désertiques, que ce soit à cause de l'altitude, des températures, etc. Tout ça, c'est essentiellement peuplé de lichens. Et donc, le lichen, il faut voir ça comme un sandwich, où vous avez une couche de champignons qui va protéger une couche d'algues. La couche d'algues est suffisamment proche de la surface pour faire de la photosynthèse et produire des sucres dont le champignon va profiter, et le champignon il va stocker l'eau à l'intérieur de ce manchon là, donc de l'eau de pluie, pas besoin d'avoir accès à l'eau du sol, et fixer l'association sur un substrat, souvent un substrat minéral sur lequel rien ne pousserait. Donc c'est vraiment un système de survie adapté aux conditions extrêmes. Sachant que dans ce cas-là, le partenaire champignon est quand même extrêmement majoritaire, hein, c'est 90% de la biomasse. Donc des lichens, vous en avez vu partout, dans des environnements salés, dans des environnements où il n'y a pas d'autres matières organiques. C'est extrêmement polymorphe, ça a des aspects très différents. C'est quand même 8% des terres émergées. Hein, donc les lichens couvrent une très grande superficie de notre planète. À savoir, de manière rigolote, c'est un indicateur de pollution. Hein, il y en a sur les troncs d'arbres des villes. Et comme ça ne recueille que de l'eau de pluie, eh bien, si cette eau est acide à cause par exemple, d'H2S qui est dilué dans l'eau, eh bien, donc produit par les fumées d'usine, des choses comme ça, eh bien, les lichens vont mourir. Et donc il y a beaucoup d'études sur la pollution et la régénération en fait des qualités de l'eau en regardant la survie des populations de lichens. Alors, je vous ai dit, et ça c'est peut-être plus anecdotique, mais ça reste important, qu'il y a aussi des associations symbiotiques avec les animaux. L'exemple qui est ici, ce sont des fourmis du genre Atta, qu'on appelle les fourmis champignonistes. Donc si vous êtes allé dans un milieu tropical, de temps en temps vous avez une parcelle, hein, dans un environnement luxuriant, où tout est complètement découpé en petits morceaux, et vous voyez des fourmis transporter ces petits morceaux de feuilles. Donc elles les enduisent de produits antibiotiques, antibiotiques qui tuent d'autres bactéries, éventuellement des champignons. Elles les amènent à l'intérieur de leur fourmilière et elles s'en servent comme nourriture, donc substrat, pour des champignons qu'elles cultivent. Champignons qui ensuite sont consommés par les fourmis en question. Donc là, on a quasiment un processus agricole extrêmement sophistiqué. Un autre aspect de cette association symbiotique, un aspect auquel on ne pense rarement, c'est que les mammifères, tels qu'ici la vache et l'ensemble des ruminants, ou les termites, comme ici, en fait, sont bien incapables de digérer la paroi végétale comme tous les animaux. Et pourtant, c'est l'essentiel de leur nourriture. Eh bien, en fait, ils vont déléguer la digestion de ces matières extrêmement dures aux champignons qui sont présents pour la vache à l'intérieur du rumen, donc des poches de l'estomac de la vache, ou pour les termites qu'elles cultivent à l'intérieur de leur termitière d'une part, donc ça aussi en termes de nourriture, mais aussi qu'elles possèdent dans leur tractus digestif. Donc, si on arrivait à éradiquer les champignons et d'autres protozoaires des termites, on se débarrasserait des termites puisqu'elles mourraient de faim, en gros. Donc, c'est un aspect de digestion extracorporelle qui a un impact extrêmement important sur et l'agriculture et un certain nombre d'insectes ravageurs. Donc, on a vu le saprophytisme, matière organique morte, on a vu la symbiose, et maintenant on va voir le parasitisme. Et là encore, on va faire une petite dichotomie entre des champignons qu'on appelle biotrophes, qui se nourrissent au détriment de leur hôte, mais leur hôte reste vivant, en tout cas en absence d'ennuis supplémentaires, ou des champignons nécrotrophes, sont des champignons donc qui vont provoquer carrément la mort de leur hôte. Alors, les champignons sont le principal ravageur des cultures d'intérêt agronomique. Et à ce titre-là, c'est la principale cause aussi d'épensage de pesticides sur des cultures, sachant que la première culture en France qui fait presque, je crois, la moitié des épensages, c'est la vigne. Et la vigne pour se défendre contre des champignons. Donc c'est un problème très sérieux qui consomme beaucoup de ressources et qui crée aussi beaucoup de dégâts environnementaux suite à l'épandage de produits. Donc, ces maladies ont été appelées en fait rouille, pourriture, charbon. Ceux d'entre vous qui jardinent sont confrontés sans cesse à ce genre de choses. Et en fait, c'est les symptômes qui ont été appelés comme ça. Et en fonction des symptômes, il y a différentes classes de champignons qui sont impactés. Donc ici, c'est la pyriculariose du riz. Riz, première céréale consommée au monde. Et donc, agent pathogène majeur, un champignon filamenteux, une moisissure. Donc dans les rouilles, hein, c'est l'essentiel des pathogènes des céréales qu'on consomme de type blé. Pour les pourritures, c'est plutôt un problème pour les fruits. Et pour les charbons, c'est plutôt un problème en agronomie tropicale. Vous avez ici le développement d'un champignon à la place, enfin qui va finir par prendre la place de l'épi de maïs et qui est évidemment impropre à la consommation. Donc ces problèmes-là, ils sont, c'est plus ou moins grave selon les conditions climatiques, mais vu la prévalence des champignons dans l'environnement, il n'y a pas de culture qui échappe. Alors, comment les champignons font pour rentrer à l'intérieur des plantes et manger la matière organique des plantes? Eh bien, en fait, soit ils utilisent des entrées naturelles, qui sont les pores par lesquels la plante, par exemple, peut respirer, soit ils utilisent des brèches qui ont été faites de manière mécanique par des accidents climatiques, des animaux, ou enfin toute force mécanique dessus. Et donc, hop, ils s'insinuent dans les cellules. Soit alors, ils ont inventé, en gros, le marteau-piqueur. Il y a des champignons qui sont capables de faire ce qu'on appelle ici un tube germinatif et puis une structure en boule là qui va contenir de quoi aller percer la cuticule très dure des plantes et en gros ça va développer quelque chose comme 3 barres de pression. Donc c'est énorme. Donc ça va faire une sorte d'aiguille qui va vraiment perforer la cuticule de la plante, et une fois que le champignon est dans la place, ben il se met à pousser et à consommer la biomasse végétale. Donc cette structure très particulière ici qu'on appelle un appressorium est évidemment une des cibles que les molécules de lutte contre les champignons tentent d'atteindre. Alors, on a beaucoup parlé de céréales, de choses qu'on consomme, mais c'est aussi un problème pour les arbres. Et il y a un exemple célèbre qui est la maladie hollandaise de l'orme, qu'on appelle aussi des fois graphiose de l'orme. Donc ça, c'est une histoire qui commence aux Pays-Bas dans les années 20, où tous les ormes se mettent à mourir. Il y a des rameaux comme ça qui sèchent et qui finissent par disparaître. Tous les ormes d'Europe ont été ravagés entre le début de l'épidémie fin de la Première Guerre mondiale jusqu'on va dire un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis des grumes sont transportées de l'autre côté de l'Atlantique et l'épidémie se propage à la population d'ormes d'Amérique. Et là, pandémie en Amérique. Et puisque toute structure vivante est génétiquement dynamique, hein, pas de fixisme, etc., il y a un variant de ce champignon hein, qui est une moisissure, Ophiostoma. Donc la première pandémie, c'est Ophiostoma ulmi, hein, cette petite moisissure. La deuxième pandémie, c'est Ophiostoma novo ulmi, une souche extrêmement agressive qui se développe aux États-Unis et qui revient en Europe par le même chemin. Et à partir des années 50, deuxième vague de pandémie avec un pathogène encore plus efficace qui va finir par éradiquer tout ce qui reste d'ormes qui avait plus ou moins résisté à la première pandémie. Et donc, c'est aussi un exemple assez intéressant parce que finalement, c'est un exemple d'infection avec un vecteur, comme ça arrive souvent avec les champignons. Ici, c'est un vecteur de type un insecte, c'est ce petit insecte que vous voyez ici qui ressemble à un coléoptère et qui va faire des galeries qu'on voit là sous l'écorce des ormes. Et en fait, ce coléoptère, il va trimballer avec lui des filaments de ce champignon et infecter les arbres de proche en proche. Donc maintenant, il y a des programmes et le seul moyen prophylactique qu'on ait trouvé, c'est que quand ce genre de symptômes arrive, l'arbre est abattu. Voilà. Pas de solution autre. Alors évidemment, les champignons sont aussi des parasites des animaux, donc cette section-là ne va pas être illustrée parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais quand même, imaginez que l'ensemble des animaux, et en particulier les mammifères, sont susceptibles d'avoir donc des mycoses. Elles sont soit superficielles, et j'imagine que si on faisait un petit échantillon dans cette salle, bah, on trouverait des pellicules, hein, qui sont des levures, donc des champignons dermatophytes qui aiment la kératine. On trouverait aussi des gens qui sont grands sportifs et qui marinent un peu avec un peu de sueur dans des chaussures de sport et qui présentent des pédathlètes. Il y a aussi la teigne qui est assez connue. Donc tout ça, c'est une mycose superficielle qui cause, enfin c'est embêtant, mais ça cause pas trop de dégâts. En revanche, il y a des mycoses systémiques, c'est-à-dire qui se disséminent dans tout l'organisme, et ces mycoses-là sont extrêmement dangereuses. Ça arrive souvent chez des malades des gens qui sont déjà malades en traitement lourd et dont le système immunitaire est souvent pas très en forme. Et en fait, le problème des champignons, c'est qu'ils vivent en association avec nous. C'est ce qu'on appelle des commensaux, c'est-à-dire que si on faisait un prélèvement de notre flore buccale, pour, je crois, environ 50% des individus ici, on trouverait, par exemple, des levures de type Candida albicans, qui, quand on est en forme, ne donnent rien de spécial, et dès qu'on commence à avoir du mal à avoir un système immunitaire efficace, vont se mettre à proliférer et créer des problèmes de santé importants. Et donc, en gros, de ces mycoses systémiques, on meurt très souvent sans beaucoup de solutions thérapeutiques. Donc ça, c'est aussi un champ de recherche extrêmement dynamique actuellement. Et ça pose des problèmes aussi aux animaux qui ne sont pas des mammifères. Il y a deux épices aussi extrêmement importantes en ce moment. Il y en a une qui touche les batraciens, avec un champignon qui va en fait on va dire modifier les qualités de leur peau, en fait, je sais pas comment on peut appeler ça, et donc ça va modifier la qualité des échanges et les populations meurent, donc ça c'est mondial et il y a plein de programmes de recensement mais on sait pas quoi faire. Le champignon à l'origine de ça a été identifié assez récemment, et encore plus récemment la maladie qu'on appelle white knot disease en anglais, donc c'est une maladie des chauves-souris qui se mettent à être infectés par des champignons comme ça et qui finissent par en mourir. Donc à chaque fois, évidemment, ça touche un grand nombre d'individus en attendant que quelques-uns puissent éventuellement résister. Hop. Alors, pour la petite anecdote, comme il existe des plantes carnivores, il existe aussi des champignons qu'on pourrait appeler de carnivores, même si vous allez voir que c'est un peu impropre. Si on va gratouiller dans la terre qui est autour de nous, on va trouver donc des ifs. Et puis, parmi ce qu'on trouve dans la litière, dans les sols forestiers, ce sont des petits vers qu'on appelle des nématodes. Hein, donc ça, c'est très petit. Et de temps en temps, pour améliorer leur ration en azote, les champignons les prennent au lasso avec, vous voyez, des structures, donc des collets constructeurs, des structures quand même assez performantes et sophistiquées, ou des ifs collantes pour les empêcher de bouger. Et ensuite, eh ben, elles ne peuvent pas les phagocyter, elles ne peuvent pas les manger comme des animaux, donc elles les digèrent sur pied. Les champignons font des enzymes qui digèrent ces nématodes en molécules simples que les champignons vont manger ensuite, donc relativement riche en azote. Alors, ça dépend de la densité d'ifs autour, mais ça peut être... je ne sais pas si on a vraiment... Il y a des films qui montrent ça en quelques heures, et j'imagine à beaucoup plus longtemps... Ce qui est sûr, c'est que les nématodes, une fois qu'ils sont piégés comme ça, ils ressortent plus jamais. C'est extrêmement efficace comme piège. Alors, on va parler juste un petit peu de lutte antifongique. Donc, il y a essentiellement pour les plantes deux stratégies qui ont été déployées. Donc, il y en a une que vous connaissez bien, qui sont les fongicides de contact. C'est-à-dire qu'on va mettre sur les plantes, les feuilles des plantes, un mélange. Et en général, c'est des mélanges à base de métaux qui empêchent la pénétration. Notamment, je vous ai montré là cette stratégie d'appressorium, donc de marteau piqueur, qui empêche les spores d'atterrir sur les feuilles et donc de continuer ensuite leur croissance. Et donc, un truc extrêmement connu, c'est la bouillie bordelaise. Hein. La bouillie bordelaise, c'est à ça que ça sert. Donc c'est plutôt préventif. Et après, il y a les fongicides systémiques, donc avec action curative. Donc une fois que le champignon a envahi la plante, qu'est-ce qu'on peut mettre pour s'en débarrasser? Et donc là, ce sont des molécules qui sont dirigées contre la synthèse d'un lipide, donc d'une graisse. Et il y a une graisse très spécifique chez les champignons qui s'appelle de l'ergostérol. Donc on peut tenter de bloquer cette voie et donc d'empêcher le développement du champignon comme ça. Alors, chez les animaux, ben, on a le problème, je vous ai montré, hein, les champignons et les animaux sont des cousins germains, donc les molécules qui vont être efficaces contre les champignons sont en général assez toxiques pour leurs cousins animaux, donc c'est difficile de trouver des cibles qu'on appelle spécifiques, d'où la difficulté d'utiliser des traitements efficaces. Donc c'est pareil, hein, on utilise cette même cible qui n'existe pas chez les animaux, et le problème c'est que les molécules voient de nombreuses résistances apparaître et que très vite leur efficacité diminue, voire devient quasi nulle. Alors, on va passer aux trois ou quatre dernières diapos de cet exposé, où on va assez rapidement parler, hein, ça serait un sujet en soi, de l'utilisation des champignons, donc d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue agronomique. Donc, bon, il y a une pratique que vous connaissez tous, hein, c'est la cueillette saisonnière. Donc ça, c'est extrêmement culturel. C'est en général géographiquement localisé. Hein, c'est essentiellement en Europe de l'Ouest et de l'Est, par exemple. Les Britanniques sont plus réticents. Enfin, c'est quand même vraiment lié à la culture, ça. Et c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, notamment parce que cueillir des champignons qu'on ne connaît pas est quelque chose de dangereux. Et que si on n'est pas initié à cette cueillette, on risque des ennuis. D'autre part, il y a une consommation rituelle qui elle aussi était très culturelle, et on pense que finalement un des premiers objets divins qui a été célébré en Europe septentrionale et centrale, c'est la manie de Tumouche. En fait, contrairement à ce qu'on pense couramment, la manie de Tumouche, la consommation de la manie de Tumouche ne tue pas, elle rend extrêmement malade. Évidemment, si on n'est pas en forme, elle va tuer aussi. Mais ça rend extrêmement malade. Et on s'est aperçu par des pratiques chamaniques qui perdurent encore actuellement en Europe septentrionale ou en Sibérie, que en fait, il y a un composé qui s'appelle donc du mucimol, et qui, quand il est consommé dans une quantité ad hoc et dans des conditions ad hoc, va donner cette impression que le corps et l'âme se dissocient et que donc l'âme rentre dans un nouvel univers, un univers qui permet de communiquer avec les esprits. Donc vraiment une espèce essentielle aux pratiques chamaniques européennes. Il y a des pendants, notamment en Amérique centrale et latine, avec ce qu'on appelle les magic mushrooms, et à peu près le même genre d'effet. Alors il y a aussi des consommations thérapeutiques de champignons. On a vu qu'on retrouve dans des campements, on retrouve auprès de personnages momifiés appartenant à peu près au néolithique, que ces gens-là transportent avec eux des champignons qui sont censés guérir un certain nombre de maux. Donc par exemple l'agaric des chirurgiens qui normalement peut limiter les hémorragies, alors évidemment c'est en absence d'autre chose, hein. Et le polypore du bouleau qui était utilisé aussi pour ses facultés antiparasitiques. Et puis vous savez tous que de cette petite moisissure ici, on a sorti un antibiotique fameux, la pénicilline, le premier antibiotique utilisé en masse, hein, donc une molécule fabriquée par le champignon pour se défendre contre les bactéries de son environnement. Et donc l'utilisation de la pénicilline a commencé la lutte efficace contre les maladies bactériennes. Et donc depuis il y a plein d'autres choses, les statines, les cyclosporines, ça c'est intéressant, la cyclosporine ça permet en fait d'aller abaisser l'efficacité du système immunitaire et c'est à peu près systématiquement prescrit pour éviter les rejets de greffes, encore une molécule fabriquée par un champignon. Alors, pour l'alimentation, ça c'est largement connu. Vous avez de quoi profiter ici de tous ces produits. Hein, donc, les levures de boulanger ou levures de bière sont capables d'utiliser des sucres simples tels que le glucose et de fabriquer de l'éthanol, donc de l'alcool, en produisant du gaz et de l'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur. Donc ça c'est la base, enfin c'est vraiment une grande base des alimentations. C'est vraiment très classique. Alors tout le bassin méditerranéen, toute l'Europe, mais au-delà, parce qu'il y a plein de préparations qui utilisent ce genre de choses en Asie, notamment avec le soja, le tempeh, etc. Donc vous imaginez, gros intérêt agronomique. L'autre implication des champignons dans l'alimentation, bah c'est la fabrication des fromages. Vous avez donc ici un camembert, ce qu'on appelle un feutrage de fromage à pâte molle. Et ben vous avez l'agent de ce feutrage ici sur boîte qui s'appelle Penicillium camemberti et qui croît comme une moisissure. Donc il faut imaginer que tous ces champignons sont naturellement présents dans l'environnement et qu'au départ il s'agissait d'une contamination environnementale naturelle. Et après, rapidement, les gens ont réalisé que ça permettait un certain nombre d'avantages, notamment en termes de conservation. Et quand on fabrique de l'alcool, on empoisonne d'autres micro-organismes qui seraient toxiques. Et donc, on va purifier un petit peu la nourriture. Donc, ensuite, ils ont conservé les méthodologies et éventuellement les micro-organismes, soit dans des caves, soit dans des pâtons, par exemple, pour le pain, etc. Donc ici, un Penicillium roqueforti directement sorti d'un bleu. Alors tout n'est jamais optimal. S'il y a des apports des champignons extrêmement importants à l'alimentation humaine, il y a aussi quelques ennuis. Et les ennuis en question, c'est essentiellement ce qu'on appelle des mycotoxines. C'est-à-dire que les champignons, vous avez vu que c'était des champions pour aller sécréter des molécules et les disperser dans l'environnement. Et ben dans ces molécules, il y a des médicaments dont on sert, mais il y a aussi des toxines qui nous empoisonnent ou qui empoisonnent les animaux au sens général et les végétaux aussi. Donc ce sont des métabolites qu'on appelle secondaires qui sont synthétisés au champ ou après la récolte, c'est-à-dire dans les silos de stockage pendant les phases de transport, donc c'est extrêmement difficile de contrôler ce type de production. Ce sont des molécules avec un S résistante qui sont résistantes à des traitements à la chaleur, des traitements pour les... C'est extrêmement difficile de s'en débarrasser et elles se fixent dans les graisses animales, donc elles se transmettent de génération en génération par le lait maternel, par la viande qu'on consomme, etc. Donc ça, c'est extrêmement toxique. Donc il y a un exemple que vous connaissez tous, c'est l'ergot de seigle, maladie de la danse de Saint-Guy, etc. Donc il y avait des époques au Moyen-Âge où il n'y avait pas le choix que de manger ces épis contaminés, que sinon personne d'autre ne mangeait parce que tout le monde savait que ce serait un problème. Et ça, donc, c'est un vasoconstricteur terrible qui va causer des problèmes circulatoires au point que les membres vont se gangréner et pourrir sur place pour les gens. Donc évidemment, ça causait des douleurs terribles, d'où les comportements étranges. Ce Claviceps purpurea fabrique toutes sortes de molécules, dont une très apparentée au LSD. On trouve aussi régulièrement dans les graines oléagineuses ce qu'on appelle de l'aflatoxine. Donc ça, c'est la molécule la plus cancérigène et une des molécules les plus tératogènes qu'on connaisse. Et donc on s'est aperçu de l'existence de cette molécule dans les années 60. Il y avait un lot d'arachides qui avait été acheté au Brésil pour nourrir des élevages de dindes en Angleterre, et les dindes sont mortes dans les 10 jours, toutes avec des symptômes bizarres. Les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce lot était particulièrement infecté par cette mycotoxine, donc extrêmement dangereuse. Donc maintenant, dans les règles de consommation pour l'alimentation, il y a aussi des seuils qui sont réservés pour l'ensemble de ces mycotoxines. Il y en a d'autres dont on n'a pas parlé, mais à destination des fruits, etc., etc. Et enfin, on ne pouvait pas conclure ce topo sans dire que les champignons ont beaucoup contribué. Ce sont des modèles d'études de choix pour des questions scientifiques. Que c'est ces champignons filamenteux ici qu'on a montré pour la première fois que le vieillissement, c'était pas juste une succession d'accidents qui se terminait par la mort, mais que ça pouvait être un programme déterminé par des facteurs génétiques. Hein, ça a été un concept. Il y a eu un prix Nobel attribué à des gens qui ont découvert le paradigme un gène, une enzyme en utilisant un champignon comme organisme modèle. C'est chez les prions qu'on a compris, c'est chez la levure qu'on a compris ce qu'était un prion, l'agent de la maladie de la vache folle, par exemple, par la facilité d'utilisation. Voilà, donc à la fin de cette petite présentation, j'espère qu'on sera d'accord sur ce que c'est qu'un champignon, que vous crierez autour de vous que oui, il y a des propriétés propres, que c'est un règne à part entière avec des propriétés biologiques, physiologiques, qu'il est difficile d'imaginer des biotopes terrestres sans champignons, que c'est assez indispensable en réservoir de molécules à différents types d'industries, et que la phase plus sombre, c'est une menace potentielle pour les plantes et les animaux, et que les moyens qu'on utilise pour s'en protéger sont aussi, d'un point de vue environnemental, assez coûteux. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a deux bouquins. Il y en a un que j'ai écrit avec Philippe Sillard, qui est donc un prof AP7 de microbiologie. On a un collègue qui travaille sur les relations entre les champignons et les arbres à Nancy, qui a écrit un truc très rigolo aussi. Et je vous conseille l'excellent documentaire, et trop rare documentaire, un vrai film scientifique comme on en voit assez peu, qui a été fait par Thomas Sipp et Anne Rizzo, diffusé sur Arte, et sans doute possible de trouver ailleurs dans les vidéothèques, etc., etc. Et ces très jolies images avec un beau contenu scientifique. Je vous remercie. Il y a beaucoup de guides qui sont excellents, mais en fait l'utilisation du guide lui-même requiert un certain savoir. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de vous rapprocher d'une société de mycologie. Il y en a plein en France, hein, si vous tapez Société française de mycologie, et ces gens-là organisent des sorties. Et ça permet d'acquérir un savoir avec des gens qui vont vous donner les clés, pour, ne serait-ce que pour lire le guide, et essayer de faire le rapprochement entre ce que vous voyez et ce qu'il y a sur la petite illustration du guide. Hein, c'est vraiment un conseil, parce qu'il y a des espèces qui sont très proches et qui sont des pièges, parce qu'en fonction des conditions climatiques, c'est un peu moins ou un peu plus coloré, un peu plus sec, un peu plus petit, un peu plus, et voilà, on peut se tromper. Et il y a des erreurs qu'il ne faut vraiment pas faire.
Bonjour.
Bonjour.
J'avais une question par rapport au rapport entre le nombre d'espèces dangereuses, que ce soit pour l'homme directement ou pour les récoltes, etc., et le nombre d'espèces bénéfiques. Parce que là, du coup, il y a certaines choses qui font un peu peur. Alors, je pense que ça va être un peu comme les bactéries, où c'est une extrême minorité qui est vraiment emmerdante.
Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à votre question. Si on parle des champignons qui se mangent, par exemple, on considère qu'en bon comestible en Europe, il y a une dizaine d'espèces. En mortel, il y a essentiellement 4. On peut l'étendre à 5 parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins intolérants à d'autres champignons, mais enfin, c'est moins d'une dizaine. Tout ce qui est autour... D'abord, le problème, c'est que les champignons sont aussi sujets à des effets de dose, donc on va pouvoir en consommer une première fois, pas avoir de problème, une deuxième fois, avoir des problèmes. Donc en général, c'est des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes neurologiques éventuellement, des problèmes hépatiques ou des problèmes néphrologiques, à plus ou moins grande intensité, ce qui fait que quelqu'un normalement constitué va passer un mauvais moment, mais en gros, s'en sortir. Donc vous voyez que la vaste majorité des espèces, c'est un corps mou qui ne fait pas grand-chose. Chez les pathogènes ou chez les symbiotiques, c'est compliqué à dire parce que l'inventaire n'est pas fini. Et c'est pareil chez les endophytes. Donc là, il y a peut-être, peut-être qu'on connaît 10 à 15% des espèces. Donc c'est compliqué de donner des chiffres. Chez les pathogènes, dans une même... donc vous savez, hein, quand on fait de la classification, de la phylogénie, on peut avoir des espèces proches. Il y a des familles dans lesquelles il va y avoir que des pathogènes, des familles dans lesquelles il va y avoir que ceux qui se nourrissent de matière organique morte. Et puis il y en a qui peuvent... qui sont un peu versatiles. Ça va dépendre des... ça va être des pathogènes opportunistes. Donc là encore, c'est compliqué de chiffrer. En revanche, si on regarde de l'autre côté du petit bout de la lorgnette, quel est le problème majeur pour la santé des plantes cultivées? Ce sont les champignons, au-delà des insectes, au-delà des problèmes bactériens, des choses comme ça. Et donc, dans les plus grands ravageurs, c'est toujours des champignons. Et effectivement, décrit un relativement petit nombre d'espèces. Oui. Et en plus, rien n'est figé. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, l'évolution permet de créer des mutations. Certaines sont neutres, il ne va rien se passer. Certaines vont être létales pour le champignon. Certaines vont lui donner un avantage sélectif. Et si c'est un parasite, ça veut dire encore plus virulent.
Bonjour. Je voulais savoir, quel est l'élément déclencheur à l'automne qui fait pousser les champignons, enfin la fructification?
Alors, en général, les fructifications chez les champignons sont des marques de stress. Donc, en général, baisse de la température, donc stress thermique, baisse des ressources, parce que les arbres se mettent à perdre leurs feuilles et donc à fabriquer moins d'énergie. Et donc, ce stress veut dire on n'est plus dans un biotope, dans un environnement confortable pour trouver de la nourriture. Donc, on va aller disséminer ailleurs. Et les structures de reproduction sexuée, c'est fait pour ça, pour aller se mettre ailleurs. Et les spores sont aussi des structures de résistance. Donc, ça veut dire que ça peut passer l'hiver sans dommage et éventuellement se développer au moment où les conditions climatiques sont meilleures.
Moi, j'ai une question très naïve. Tu as parlé de biotope terrestre.
Ouais.
Et tout à coup, ça m'est apparu. Il y a des champignons dans l'eau et
oui.
dans la mer notamment.
Il y a des champignons dans l'eau, il y a des champignons dans la mer. Effectivement, ce sont des champignons dont on connaît assez peu le cycle de vie. Et pendant très longtemps, il y avait l'écueil. Si on trouve donc ces fameuses spores, hein, dont on a des nuages de spores qui en gros font le tour de la Terre avec les vents dominants. Donc si on les retrouve dans des milieux marins, est-ce que c'est une contamination ou est-ce qu'ils étaient là? Mais il existe des espèces décrites.
Justement, par rapport aux champignons qui vivent dans l'eau, j'ai entendu parler d'un champignon parasite du crabe, je crois, qui est capable de changer le sexe du crabe pour pouvoir contaminer un nouvel individu. Est-ce qu'il y a plus d'informations à ce sujet?
Alors, je ne connais pas cet exemple. En revanche, il existe un certain nombre de micro-organismes qui sont connus pour aller reprogrammer l'identité sexuelle de leur hôte. Ouais. Bonjour.
Vous expliquez que un grand nombre de champignons pathogènes sont connus.
Oui.
Et que très peu de symbiotiques le sont.
Alors, je dis que c'est à l'envers, en fait. Je dis que dans les organismes qu'on a identifiés comme pathogènes des cultures, hein, puisque c'est un problème qui se pose, la vaste majorité sont des champignons. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'imaginer. Si on connaît seulement si on imagine qu'on connaît seulement environ 10% des espèces de champignons, on peut avoir des biais. C'est-à-dire que l'agronomie est un biais en soi, puisqu'on va avoir un petit nombre d'espèces végétales, en général relativement homogènes génétiquement, cultivées sur des grandes distances. Donc ça, évidemment, ça va amener à ce que si un pathogène a un succès évolutif, il gagne la timbale, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en termes de description.
Du coup, pour poursuivre, en imaginant qu'un potager ait quelques pathogènes, en augmentant les possibilités de vie fongique, donc symbiotique et compagnie, en augmentant tout ça, est-ce que du coup on peut imaginer qu'une lutte fongique soit plus appropriée que des produits antifongiques ?
Alors, il existe effectivement des équilibres, c'est-à-dire que plus un écosystème est riche en nombre, mais là on dépasse les champignons, aussi en bactéries, en virus, en phages, en gros en nombre d'espèces vivantes, ça ne s'applique pas aux virus et aux phages, mais plus la diversité d'un écosystème est grande et plus on est dans des équilibres, donc moins on a cette bascule vers un ravage complet de la culture. Il y a on tente d'utiliser des champignons pour se débarrasser d'insectes ravageurs dans les cultures, parce que les champignons parasitent d'insectes. Donc ça marche assez mollement, parce qu'en fait c'est pas foudroyant, et donc en général l'insecte a eu le temps de dévorer tout ou partie de la production avant qu'il meure de l'infection fongique. Donc c'est moyen. En revanche, on sait que effectivement, je vous ai montré ça, des plantes mycorhizées vont mieux résister, y compris à des pathogènes fongiques qui sont présents. Et plus la diversité végétale est importante, et moins on a ce problème aussi. Donc c'est vraiment... Par exemple, vous savez sans doute qu'il y a des endroits où on extrait ce qu'on appelle des sables bitumineux, c'est-à-dire du bitume présent dans le sol. Donc ça se fait beaucoup en Alberta. Pour ça, on coupe les forêts à blanc, on récupère le sol. On sépare les composantes minérales du sol, bitume et autres, et on fait ça avec des grandes quantités d'eau, de la soude pour le procédé chimique, etc., des sels. Donc quand on a fini, on a une terre qui a été mise à nu, et on a rejeté quelque chose qui est extrêmement alcalin et très salé. Donc même s'il y a un programme de reforestation qui suit, aucun arbre issu d'une pépinière classique ne pourra jamais se remettre à pousser, et en fait ils meurent tous. Donc ce qui est fait, c'est réamender, c'est fait pour la vigne aussi notamment, parce que ça fait partie des terroirs les plus dégradés, c'est de réamender le sol en champignons, mais aussi en bactéries. Et là, en l'occurrence, ils choisissent aussi des bactéries de marée salante, choses comme ça, qui ont la capacité de supporter ces conditions extrêmes, de faire descendre les pH, de diminuer les quantités de sel, et qui vont favoriser ensuite le reboisement. Donc c'est toujours des équilibres. Alors, le bois fragmenté, c'est le substrat idéal, c'est le chocolat du champignon, quoi. Ils sont, mais du coup, vous prenez aussi le risque d'amener des espèces qui pourront être éventuellement agressives pour des jeunes plants. C'est une balance.
Est-ce que les champignons peuvent mycorhizes? Est-ce qu'ils peuvent transporter des pollutions à l'autre bout d'une forêt, par exemple?
Alors la réponse est probablement oui, on ne sait pas. Il y a des manips qui ont été faits en utilisant des molécules marquées qui effectivement voyagent très bien. Donc les molécules en question qu'on a utilisées, c'était des sucres. Mais les champignons, vous avez vu, vont chercher les ressources dans le sol et les concentrent. Donc dans les choses qu'ils concentrent, il y a les métaux lourds, le matériel radioactif, les molécules radioactives, donc toutes sortes de polluants. Et effectivement, ça dissémine le long de la colonie. Donc oui. Alors, de grandes proportions, de grandes distances, oui. Hein, on connaît les champignons. Enfin, il y a un exemple où on parle de 9 km² pour un individu. Donc, c'est un relativement grand territoire. Il est probable que ce soit un extrême parce que le territoire du sol des forêts, c'est aussi, c'est un peu comme les alouettes. Il y a des compétitions avec les autres et chacun se fait sa place. Donc, on n'a pas forcément la place d'envahir tout ça. Mais potentiellement, donc, ça peut être très très grand. Et donc, il y a ça fait des conduites. Mais les ifs, là, c'est de l'ordre du micromètre. Donc, on n'est pas non plus dans des volumes extrêmement importants. Mais pour des molécules en nanomètres, ça fait de quoi stocker un peu. Si, si, c'est totalement utilisé, mais ensuite, après, il faut... alors, ça dépend quelle matière. Si c'est des matières qui sont concentrées dans le champignon, bah après, il faut récupérer la matière fongique et s'en débarrasser parce qu'elle est soit radioactive, soit pleine de métaux lourds. Alors, l'humus, par exemple, le terreau, lui, est... Dans le film, là, il y a l'exemple de ce que fait Paul Stamets aux États-Unis. Donc, la bioremédiation, les champignons, évidemment, en étant des acteurs majeurs des sols forestiers, sont les premiers concernés. Donc, c'est possible, mais c'est aussi possible parce qu'ils vont, eux, sécréter des molécules qui, par exemple, sont capables de dégrader des solvants organiques, des dérivés de pétrole et des choses comme ça. Donc, ils les dégradent en composés qui, éventuellement, si on a de la chance, sont moins toxiques que le composé initial. Mais après, on est dans une dynamique, encore une fois. Mais il y a des gens, pour finir, qui pensent modifier le patrimoine génétique des champignons, récupérer par exemple des terreaux un peu spécifiques de par exemple d'origine catastrophe nucléaire, choses comme ça, dans des bacs, donc isolés de la biosphère, et utiliser les champignons pour dans ces enceintes confinées, tenter de concentrer le matériel radioactif et donc du coup d'avoir des volumes à traiter moins grands.
Une question aussi concernant la communication. Il y avait la conférence juste avant sur la communication chez les animaux par le son. Et entre les plantes et les champignons, est-ce qu'il y a des molécules chimiques qu'une plante peut appeler une
microbe? Alors ça c'est un champ de recherche extrêmement dynamique comme vous pouvez imaginer. Donc il y a plusieurs classes de molécules. Il y a des molécules, donc c'est ce qu'on appelle de la signalisation, donc c'est des petits peptides sécrétés, donc certains appellent ça des effecteurs. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre un parasite et un symbiote? Surtout quand les symbiotes rentrent à l'intérieur des cellules de plantes. Et cette question-là, elle est toujours ouverte, donc on a des éléments de réponse. On sait qu'il y a des systèmes où on va modifier le pouvoir oxydant et ça va être un signal d'adaptation entre le symbiote et la plante. On sait que donc il y a ces petits effecteurs qui se promènent et qui font des gradients de concentration qui pourraient permettre d'orienter l'association dans un sens ou dans l'autre. Il existe des phéromones aussi chez les champignons, c'est aussi comme ça qu'ils se rencontrent pour se reproduire entre eux. Donc il y a un ensemble de molécules et des composés organiques volatiles. Donc il y a un ensemble de molécules qui peuvent servir à ça. On est très loin de décrire le système. On en connaît quelques-unes, mais c'est...
Je voulais avoir une petite question, savoir si on avait des traces fossiles, premièrement. C'est vrai que c'est parti molle, donc ça
va
peut-être avoir des traces de modification de végétaux.
Alors c'est ça, en fait les premières traces fossiles que je qualifierais de sérieuses correspondent aux premières traces fossiles de plantes terrestres. En fait on pense que donc les plantes terrestres sont probablement originaires de plantes qui étaient aquatiques, sorties de l'eau il y a 450 millions d'années à la louche, et donc ces plantes aquatiques n'avaient pas de racines, il n'y avait pas de système racinaire, il n'y avait pas d'attache à un substrat. Donc il a fallu faire une sorte d'adaptateur, les champignons ont pu jouer un rôle, et peut-être que la mycorhize est en fait l'état ancestral des champignons, de faire cet adaptateur entre un substrat et des racines de plantes en développement pour ancrer. Donc là, il y a quelques fossiles, mais ce sont des objets très petits. Effectivement, il n'y a pas de vrai squelette, choses comme ça. Donc c'est des traces, c'est souvent l'objet de controverses.
Donc la deuxième question, c'est... Il y a les fameux rondes fées et rondes sorcières. Alors, vous avez des chiffres sur les dimensions et certaines.
Alors, en fait, le ronde... Un rond de sorcière, c'est pour ça, hein, si je, on remet une photo, c'est peut-être pas la meilleure pour expliquer ça. Celle-là, ça c'est, voilà, donc ça c'est le rond de sorcière, ça correspond à la croissance centrifuge donc de l'appareil qu'on peut appeler végétatif, même si j'aime pas ce mot-là. Et donc ici, c'est à la périphérie que peuvent en général se situer les fructifications des champignons qui font les rondes sorcières. Pour d'autres, comme pour ces champignons-là par exemple, le problème est inverse. En général, ils se mettent à faire les fructifications au centre de la colonie, qui est l'endroit où le milieu est le plus épuisé, avec de la nourriture qui arrive en provenance du bord de la colonie qu'on appelle l'apex. Donc voilà, c'est ça les rondes sorcières. Dans l'absolu, avec la totipotence en plus des champignons, la majorité des champignons sont décrits comme immortels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de phénomène de vieillissement. Ils croissent tant qu'il y a de la place et tant qu'il y a de la nourriture. Donc un des champignons que je vous ai montré au début, là, Neurospora, il a été repiqué depuis 60 ans de laboratoire en laboratoire. On a une souche qui pousse. Oui, alors il y a des chiffres comme ça qui circulent, ça n'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile à... En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on met un marqueur d'un côté, on espère le retrouver de l'autre. Donc ça, c'est notamment à cause de cette structure en tube que je vous ai montré. Mais je vous ai aussi montré qu'il y avait des liens entre le champignon, des plantes, le champignon, des plantes, le champignon, des plantes. Et donc, dans un certain nombre de cas, on n'est pas très sûr qu'il n'y ait pas un pipeline intermédiaire, notamment racinaire, ou un autre champignon qui serve de pont, et ainsi de suite. Par exemple, il existe des orchidées qui n'ont plus de chlorophylle et elles vivent. Et en fait, elles tirent leur matière carbonée de d'autres plantes et cette matière carbonée transite via le réseau mycélien des champignons. Si, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et ça dure combien de temps, ou est-ce qu'en général, c'est essayer de manger les champignons
Alors, dans les organismes vivants qui sont en train de boulotter le sarcophage qui a été posé sur le réacteur de Tchernobyl, il y a des champignons. Et notamment, ils ont des pigments, des mélanines qui permettent de résister au rayonnement plutôt mieux que les autres. En plus, ça peut être des organismes à cycle court, donc les effets mutagènes sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Il y a un exemple amusant. En Allemagne, la consommation de la viande de sanglier est interdite. Pas parce que les sangliers sont extraordinairement plus radioactifs qu'ailleurs, mais parce qu'ils consomment les champignons qui, eux, ont profité du passage du nuage de Tchernobyl. Et donc, cette radioactivité est encore significativement présente dans l'environnement, dans les animaux qui se nourrissent beaucoup de champignons. Et évidemment, donc je vous ai dit, hein, il dégrade la matière environnante et il la concentre. Donc, oui, les polluants, notamment donc les molécules radioactives, oui, les champignons sont significativement, peuvent être significativement radiomarqués. Merci à vous.
Je peux vous poser une question,
oui,
hors micro.
Sûr, absolument. Si j'arrive à décrocher le micro.
Souvent, j'ai du pain qui a de fait 10 jours, 15
ouais,
jours.
Et
oui, est-ce que c'est négatif ou... Parce
alors,
qu'au début, je pensais que
c'est vert ou c'est rose.
Ça devient vert.
Ça devient vert. Donc, c'est un pénicillium, ça s'appelle.
Oui, oui, c'est ça.
Ouais. Et donc, le problème des champignons, c'est que je vous ai dit, ils fabriquent des mycotoxines. Et donc le pénicillium fabrique des mycotoxines. Et on ne peut pas dire juste en regardant le champignon qui pousse. Peut-être que finalement, parce que par exemple, les anciens avaient remarqué que si on mangeait des choses moisies, on pouvait lutter un peu contre d'autres infections. Probablement parce qu'on consommait la pénicilline avec. Ça c'est l'effet plutôt bénéfique, mais vous avez un effet plutôt négatif qui pourrait être celle des toxines que vous allez ingérer avec. Et ça, il n'y a pas de moyen simple de savoir.
Ce soir, sûr.
Ah d'accord. Bon, écoute, si on se
mais a priori, peut-être demain, mais je dois travailler.
Ah d'accord.
Mais à bientôt.
À bientôt, mon ami.
Est-ce qu'il faut les jeter comme une
Ouais. Bon, tu connaissais un peu le chemin quand même.
Ouais.
Ça t'a rappelé des souvenirs.
Je suis venu en train la fois, je t'en avais.
Ça va, c'est
bien. C'est là.
Je suis venu avec ma fille qui est là-bas, le premier rang.
Ah ouais. Salut.
Et ma mère.
Ah oui. Ouais, c'est bien. Souvent on a des gamins comme ça qui nous courent entre les pattes.
Ouais, c'est vrai.
C'est quand tu sais, c'est comment il s'appelle ? Vincent Coudet du Forestro.
Ouais, je connais.
Quand il était venu, je me rappelle, il avait des gamins hyper marrants. Alors ça a détourné l'attention. Il courait comme des fous, je sais plus, c'est un petit gamin. Il était adorable. Mais tout à l'heure, il ne panique pas
précis. C'est vrai. Ouais, ça arrive.
Bon alors, tu as ton propre ordi ?
Ouais.
Est-ce que tu as besoin du son, enfin pas pour parler, mais écoute, au niveau des présentations.
Je pense pas, soit j'ai rien de.
Il n'y a pas de choses sonores, le son de l'espace.
Non, je pense que. Non, pas dans cette conf-là.
Tu as besoin que de t'écouter toi.
Ouais, je pense que.
D'accord. Alors, je vais faire une petite annonce peut-être.